Vous écoutez France Culture.
Il est 12h45, l'heure de vous retrouver, Martin Kenen, pour la grande table d'été.
Merci Mathieu, Mathieu Laurent et la rédaction de France Culture vous donnent rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Aujourd'hui, la grande table d'été se fait tour à tour Bifrost, table de classe en bois patiné et objets de design. Au gré de trois parties consacrées aux super-héroïnes qui étendent actuellement leur empire dans les comics et les blockbusters, puis à l'acteur Robin Williams, l'interprète du Cercle des poètes disparus et de Will Hunting, dont nous parlera Emmanuel Etis vers 13h15. Et enfin, à 13h30, place à la jeune création dans le domaine du design, après la remise des prix du 9e festival Design Parade de la ville à Noailles, en compagnie des designers Alice etc. et Laura Couteau-Rosado. Jamais avare de métamorphose, la grande table d'été se changera encore en White Cube et en estrade, le temps des chroniques plastiques et mythomanes d'Aude Lavigne et Marine Loyen. Regardez donc autour de vous. Les femmes ont pris le pouvoir, et je ne vous parle pas de politique, mais de plus fort encore, les affiches, les écrans de cinéma, tout comme le réseau interconnecté s'en font l'écho plus que jamais, les femmes ont le super pouvoir. De Scarlett Johansson, qui maîtrise 100% des capacités de son cerveau, dans Lucy, le nouveau film de Luc Besson, à Zoé Saldana, qui incombe la charge herculéenne de gardienne de la galaxie, dans le blockbuster éponyme qui sort en salle demain, sans négliger le coup de tonnerre qui accompagne le changement de sexe annoncé de Thor, le héros de comics qui sauve l'univers à coups de marteau, la culture populaire reflète ce nouvel ordre du monde et la grande table vous invite dans sa première partie à l'interpréter en compagnie de quatre super experts. Au premier rang desquels, Audrey Alouette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste de plusieurs séries de bandes dessinées comme Princesse Sarah, Triskel ou encore Lord of Burger et vous avez également fondé les collections Strawberry et Blackberry aux éditions Soleil. À vos côtés, par la magie des ondes électromagnétiques, se trouve la dessinatrice Stéphanie Anse. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez notamment chez Marvel Comics, pour qui vous réalisez en particulier les couvertures des aventures de Thor et consorts. Troisième super-héros autour de notre grande table d'été, Sylvain Rimbaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant à Paris 3 à Sorbonne Nouvelle et chargé de cours à Paris 8. Vous vous piquez de cultural et fashion studies et vous étudiez en particulier les comics à travers ce prisme élégant et érudit. Enfin, notre quatrième fantastique sera aujourd'hui Thomas Rozek, chroniqueur dans le 12-30 du Move et sur France Info et aussi bassiste de rock qui nous rejoindra dans quelques instants sur son surf d'argent.
You're supposed to fall on the floor.
You're attractive, Catwoman, but not that attractive.
Put on a double dose of eau de chat, that poisonous perfume. You should have been dead 30 seconds ago.
Aha, aha! So, all of this lovey-dovey business was just a trick.
Why aren't you writhing in pain?
I had a hunch that you'd try something not quite kosher. I've been wearing bat plugs up my nose. I've been breathing nothing but clean, fresh air sans eau de chat parfum.
You cheated!
Alors voici un dialogue enlevé entre Batman et Catwoman, extrait de la série télévisée qui est consacrée à Batman, qui était consacrée à Batman dans les années 60. C'est un épisode de 1966. Précisément, ces super-héroïnes, Sylvain Rimbaud, elles viennent de loin, mais depuis Wonder Woman, créée en 1941, donc en passant par Catwoman, jusqu'à Lucy de Luc Besson, et puis La Veuve Noire, également incarnée à l'écran par Scarlett Johansson, et puis la future Thor, comment la représentation graphique des super-héroïnes, de leur corps, de leur costume, a-t-elle évolué?
Alors, la représentation graphique, comme pour les héros masculins, les attributs traditionnellement liés au genre sont toujours exacerbés. C'est une chose qu'on voit dans les comics, on va dire, modernes. Par contre, au début, si on regarde par exemple la première apparition de Wonder Woman dans les comics, c'est rien de très choquant. D'une part, parce que les comics étaient avant tout pensés pour la jeunesse. Et d'autre part, dans les années 50, on a eu un code de régulation, le Comics Code Authority, qui demande de dessiner les femmes de manière réaliste, sans exagération en fait de leur qualité physique.
Vous voulez dire que Wonder Woman à cette époque-là avait des manches longues et pas un petit bustier décolleté?
Alors, le costume, on est d'accord que les costumes des super-héroïnes, il y a toujours moins de tissu, il y a plus de chair visible que les costumes des super-héros mâles. Et c'est justement en fait ces costumes qui mettent en valeur ces attributs liés au genre qui sont exacerbés, que ce soit chez les héros masculins, ça va être les muscles, etc. Et chez les super-héroïnes, ça va être la poitrine qui devient opulente ou les fesses qui deviennent rebondies.
Stéphanie Hans, pour vous qui les dessinez, comme vous dessinez aussi les surhommes sur les couvertures des comics Marvel, quels sont aujourd'hui les canons de beauté plastique des super-héroïnes?
Je pense en fait que les choses ont pas mal changé. Les lecteurs, même les lecteurs masculins, en fait, sont les premiers à noter ce qu'on appelle le brokeback, par exemple, quand l'héroïne se tourne pour qu'on voit à la fois ses fesses et ses seins, ou les costumes très petits. Là, je travaille sur une série en fait qui s'appelle Angela, qui est l'adaptation d'un personnage qui date des années 90, qui a un look vraiment rétro en fait, avec une armure en bikini. Et en fait, même si les gens qui étaient fans de la série apprécient que ça soit très bien dessiné, ils sont les premiers à dire que les artères, les muscles, enfin tout ce qui pourrait poser problème dans une bataille, tout ça est très exposé et que c'est plus du tout crédible. Et ça l'était pas avant non plus, mais maintenant ça pose problème.
Alors précisément, en ce qui concerne les couvertures que vous peignez, que vous dessinez, Stéphanie Hans, vous vous permettez de dévoiler de la chair ou vous gardez ça pour l'intérieur du magazine et il faut garder un peu de sens moral, même si ce code dont nous parlait Sylvain Rimbaud n'est plus en vigueur aujourd'hui?
Alors en fait, la règle tacite, c'est qu'il ne faut pas montrer ce qu'on appelle les naughty bits. C'est en gros les parties qui sont trop trop sexuelles, mais... Le reste, finalement, c'est que si le costume est là, c'est comme ça que moi je vais le dessiner. Après, ce que moi j'apporte à la couverture, c'est une attitude. C'est qu'on oublie le costume pour penser au personnage qui le porte. Mais tous les dessinateurs ne travaillent pas de la même façon. C'est ma façon de faire.
Sylvain Rimbaud, parmi toutes les héroïnes, les super-héroïnes de comics que vous avez pu regarder, contempler pour vos études très sérieuses, je rappelle que vous êtes un universitaire, un chercheur, quelles sont celles dont le costume vous a le plus intrigué, surpris ?
À la fois dans les comics, mais aussi dans les réappropriations, dans les adaptations plutôt cinématographiques, je parlerai de Catwoman justement. Pourquoi ? Parce que ça a été une des plus adaptées finalement au cinéma. Elle a eu une fois son propre film où elle était l'héroïne principale. Et justement, par exemple, avec ce personnage de Catwoman, on voit cette évolution de Michelle Pfeiffer, de Halle Berry, qui ont toutes les deux une combinaison en cuir ou en vinyle, Anne Hathaway dans le dernier Batman de Nolan qui prend les mêmes tissus que les costumes de super-héros, justement. C'est un espèce de néoprène noir.
Stéphanie Hans, on le disait en introduction, Thor devient une femme. Ce sera fait en octobre prochain, nous annonce Marvel. On découvre Thor volontiers quand on est jeune homme, jeune femme, en lisant des comics. Pourtant, Thor vient de la mythologie scandinave. Georges Dumézil lui a consacré un chapitre dans ses mythes et dieux de la Scandinavie ancienne. Il rappelle que dans les récits traditionnels mythologiques islandais, Thor se déguisait parfois en fille et enfilait un costume de plume dans un épisode en particulier pour récupérer son marteau volé par un géant du givre. À quoi doit-on s'attendre avec cette Thor, donc au féminin, avec un costume de plume également ?
J'espère que non, mais tout dépend de qui sera au scénario. pour le moment, je ne suis pas dans le secret des dieux. Maintenant, ce que moi, je peux te dire là-dessus, c'est que Thor, dans les comics, a déjà été une grenouille, si je me rappelle bien. Donc, ça ne devrait pas être aussi choquant pour les lecteurs.
Sylvain Rimbaud, ce Thor qui change de sexe, comment est-ce que vous l'interprétez ?
Moi, je l'interprète. Alors, si on regarde ce que les, la volonté en fait des deux grandes maisons d'édition qui sont Marvel et DC, ils nous disent qu'il y a une volonté de diversité dans les personnages. Donc, c'est pour ça que on change le personnage de Thor en fille. C'est pour ça que Miss Marvel, une héroïne afghane, est publiée. Mais ça marche aussi par rapport aux minorités ethniques ou aux minorités sexuelles. Spider-Man, depuis un an, est un latino-américain. Captain America devient un africain-américain. Il y a plusieurs personnages qui ont fait leur coming out et qui se sont mariés ces dernières années. Je pense à Batwoman et Green Lantern dans DC, chez DC Comics, et à North Star, par exemple, chez Marvel.
Audrey Alouette, vous n'êtes pas une experte S-Comics, vous êtes cependant scénariste et éditrice de bande dessinée. Quel regard portez-vous sur la représentation physique des femmes, des filles dans les comics par opposition à vos genres de prédilection que sont la bande dessinée traditionnelle, qu'on appelle parfois franco-belge, et le manga ?
Alors, en fait, moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans le comics, mais c'est vrai que ça tend à beaucoup évoluer depuis à peu près 2 ans, c'est que je trouve qu'en fait, le comics ne se réinvente pas tellement, en particulier chez Marvel et DC Comics, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui font des choses très, très nouvelles. Mais en fait, c'est vrai que les Américains réinventent continuellement leur propre mythologie. Et je trouve ça presque un petit peu dommage de transformer Thor en femme, etc., plutôt que de créer un nouveau personnage féminin. C'est un peu ce qu'on espérait. Bon, par ailleurs, c'est vrai qu'elles sont quand même sursexualisées. Et pour l'instant, moi, je trouve qu'elles ne parlent pas tellement à un public féminin. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on n'a qu'à voir le public féminin français, le lectorat féminin français, a tendance à se jeter avant tout sur les mangas en particulier, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup plus, qui sexualise pas forcément à outrance ces personnages. C'est des histoires qui peut-être parlent un petit peu plus à un lectorat féminin adolescent, j'entends, parce que bon, après, sur un public adulte, c'est encore différent. Voilà, on a eu un petit peu le même problème dans la BD française il y a encore 10-15 ans. D'ailleurs, j'avais un petit peu essayé de changer ça avec mes propres collections. C'est vrai que à partir de l'adolescence, je ne parle certainement pas de l'enfance, ou alors là, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. La BD française est très, très riche et c'est merveilleux. Mais à partir de l'adolescence, on avait tendance justement à faire un petit peu comme le comics, c'est-à-dire à proposer un peu des super-héros à la française, si j'ose dire, et finalement, pas trop, des personnages féminins justement sursexualisés, dans lesquels les jeunes filles ne se reconnaissent pas vraiment. Alors peut-être que Marvel et DC Comics ont la volonté de changer ça. À l'avenir, pour l'instant, moi, je suis un petit peu sceptique, mais enfin bon, ça évolue tellement vite depuis 2 ans. Attendons voir.
Stéphanie Hans, vous partagez ce scepticisme, ces regrets de lectrice d'Audrey Alouette ?
Moi, de mon expérience, je passe pas mal de temps en fait sur les conventions aux États-Unis.
Donc les grands salons où on retrouve à la fois les auteurs et puis tous les fans qui sont déguisés avec les costumes de leurs personnages favoris.
Oui, et en fait, on en a beaucoup parlé du lectorat justement féminin. Aux États-Unis, les revendeurs s'accordent à dire qu'il serait de 40%, ce qui est beaucoup plus que tout ce qu'on pensait jusqu'ici. Et ce lectorat-là, en fait, est prêt à accepter des nouveaux personnages et aussi à voir les anciens évoluer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment chez Marvel et chez DC aussi, mais aussi chez Boom, chez Image. Par exemple, chez Boom, je crois qu'il y a 30% de créatrices, ce qui est énorme en fait, parce que chez Marvel ou chez DC, la moyenne, c'est entre 8 et 10%. Et en général, dans cette moyenne, ils mettent aussi les éditrices. Les choses sont vraiment en train de changer en ce moment. C'est maintenant que ça arrive.
de Slits sur France Culture, Typical Girl, un morceau de 1979, grande époque, qu'on retrouve dans les scénarios de comics, en particulier chez les Watchmen. Sylvain Rimbaud, on écoute ces Typical Girls, est-ce que vous pourriez nous faire une typologie du rôle des femmes dans les comics, parce qu'il y a les super-héroïnes, mais il y a aussi d'autres figures féminines.
Oui, alors moi j'ai l'habitude de faire une typologie qui prend en compte trois sortes de personnages féminins. Donc on a d'abord les super-héroïnes. Outre les héroïnes originales comme Wonder Woman ou Catwoman, on a des super-héroïnes qu'on va dire dérivées finalement des super-héros. Donc de la même manière qu'on a un Spider-Man ou un Hulk, ou un Superman, on a une Spider-Woman, une She-Hulk et une Supergirl. Donc première catégorie. La deuxième catégorie, ce serait les super-vilaines, qui sont pour le coup, elles, originales. Elles ne sont pas vraiment dérivées d'autres super-héros mâles. Et la troisième catégorie, qui serait les adjuvantes, en fait, qui sont les personnages qui sont pas des super-héroïnes, qui sont des proches, finalement, des super-héros, celles qui viennent aussi dans l'histoire, enfin qui sont prises en compte dans le scénario, et qui, pour certaines, sont la caution, en fait, maternelle du super-héros. Ou alors, un espèce d'objet de quête. Pourquoi ? Parce que le super-vilain s'en prend à cette adjuvante pour, justement, faire du mal au super-héros.
Est-ce que les choses changent dans cette tripartition qu'on ne doit pas à Dumézil, mais à vous, Sylvain Rimbaud, dans les figures
qu'on féminines
qu'on
trouve déjà chez Chrétienne III, par ailleurs, hein, ouais. Parce que c'est très, très médiéval.
Et alors, est-ce que justement, on s'échappe de ce schéma médiéval ? Est-ce que les femmes passeraient du rôle de victime, en particulier pour les adjuvantes, à celui de bourreau ?
Alors, ça, je ne sais pas vraiment. Ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde encore une fois l'évolution, les adaptations dans les films, par exemple, on voit que ces personnages secondaires prennent beaucoup plus de matière, en fait, dans les films, notamment. Je pense à La Veuve Noire ou à la prochaine Wonder Woman, qui, j'espère, va être bien établie dans le film The Batman contre Superman en 2016. J'espère, dans le futur, qu'en tout cas au cinéma, on va voir des choses, des femmes tout aussi fortes que les super-héros.
Audrey Alouette, dans votre collection Blackberry aux éditions Soleil, vous jouez justement à transgresser ces codes médiévaux que vous évoquiez, puisque vous dites que c'est une collection qui s'adresse aux princesses déchues, aux pin-up éplorées, aux danseuses maudites.
Oui, enfin, qui s'adresse aux... Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je m'amuse en fait à reprendre toute une base de clichés, disons-le clairement. Mais bon, après, en fait, ce qui est assez fourbe, c'est que les personnages de ma collection, pas seulement les miens en tant que scénariste, mais ceux aussi de mes collègues scénaristes qui travaillent dans ma collection, en fait, on fait tout un petit peu des super héroïnes qui n'en ont pas l'air. Je vois par exemple mon princesse Sarah, en fait c'est un Jedi, hein, elle a qu'un credo, c'est force et honneur, dont la deuxième partie c'est un ingénieur brillant. Là récemment j'ai publié une BD qui est d'Isabelle Bautian, Rebecca Morse, qui est fantastique, qui s'appelle Alissa, et qui est l'histoire d'une jeune demoiselle, d'une petite collégienne qui en fait a un QI de génie, qui a 160 de QI et qui essaye de s'intégrer dans son collège en dissimulant son intelligence. C'est très très drôle. Voilà, en fait ce sont en quelque sorte des super héroïnes puisque elles ont un vrai rôle, mais elles sont pas hyper sexualisées. Enfin, elles fonctionnent vraiment. Elles agissent pour leur propre vie et pour celle des autres. Enfin, elles sont exactement comme les super héros, c'est-à-dire que c'est un peu elles. L'action tourne vraiment autour d'elles et c'est elles qui font avancer l'action. Mais elles ont pas besoin d'être sauvées en permanence. Elles ont pas besoin de se servir de leur charme pour faire quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est un peu. Enfin, moi j'aime bien en plus m'adresser à un public qui est un peu féminin. J'ai aussi des lecteurs masculins, mais ils sont quand même en minorité. Parce que finalement, on fournit peu de modèles en BD. Enfin, on en a fourni assez peu, disons, ces 20 dernières années au lectorat féminin. Et j'aime justement présenter un modèle assez sympathique et assez fort de caractère, même si, bien sûr, elle porte des jolies robes de princesse, etc. Tout ça est très sournois.
Stéphanie Hans, il y a les femmes dans les scénarios, mais il y a aussi les femmes à l'œuvre sur la table à dessin ou qui écrivent les scénarios, ces auteurs du dessin du scénar. Donc, vous êtes l'une de ces femmes, puisque vous dessinez pour, en particulier pour Marvel Comics, parmi des hommes qui restent majoritaires. Comment se passent les choses? Est-ce que vous devez, comme l'héroïne d'Audrey Alouette, dissimuler votre génie?
Non, moi, en fait, je dois faire partie des gens qui ont eu beaucoup de chance, mais j'ai jamais eu de soucis de sexisme dans mon travail. Un jour, le recruteur de Marvel m'a dit, c'est simple, pour bosser pour Marvel, il y a trois conditions prérequises. Il faut être bon, il faut tenir les deadlines, et c'est vraiment le plus important, et il faut être un collaborateur avec qui c'est facile de travailler. On peut être moins bon dans un de ces trois si on est exceptionnel dans les deux autres, mais en gros, c'est ça. Et en fait, ça s'est pas démenti, j'ai toujours tenu mes deadlines. Ils ont confiance dans ce que je fais. J'ai pas ressenti qu'on attendait autre chose de moi que faire mon travail, en fait.
Stéphanie Hans, vous faites principalement des couvertures pour les albums de Marvel, pour les magazines de Marvel, pour les comics.
Je fais aussi des intérieurs, moins souvent.
Voilà, justement, parce que ce qui est intéressant, c'est de passer de la couverture à l'intérieur, comme certains magazines pour hommes. Je pense par exemple au magazine Lui, qui est ressorti dans les kiosques. On voit des jolies filles en couverture, mais plus rarement qui tiennent la plume à l'intérieur. C'est un combat pour avoir le droit aussi de proposer du contenu?
Non. En fait, on me l'a proposé plusieurs fois, mais simplement ma technique à moi est plutôt lente. Et en gros, on me donne des choses que je peux avoir le temps de faire. C'est que pour moi, faire 20 planches en un mois, je peux le faire, mais je peux faire rien d'autre. J'ai beaucoup d'autres contrats un peu partout ailleurs. Et je ne peux pas faire 20 planches tous les mois. Je peux le faire une fois de temps en temps, mais pas tous les mois.
Thomas Rozek, vous nous avez rejoint, chroniqueur, donc je le disais, pour le 12-30 du Mouv' et France Info, bassiste de rock également.
Oui,
c'est dans votre Batcave. Vous avez donc déposé votre surf d'argent et enroulé votre fouet doré à la ceinture. S'il était une super héroïne que vous chérissez, que vous vénérez, que vous admirez, peut-être que vous craignez.
Que je crains, oula.
Quelle serait-elle?
Ouais, je dirais Wonder Woman assez facilement. Elle a quand même une propension à manier le fouet qui est assez effrayante. Mais s'il y a une super-héroïne qui m'intéresse particulièrement ces derniers temps, c'est Miss Marvel, qui a été relancée il y a quelques mois maintenant, si je ne dis pas de bêtises, et qui est vraiment un personnage très intéressant. D'ailleurs, ça se vérifie auprès du public, puisque ses ventes sont historiques. Elle a cartonné vraiment dans les kiosques. Elle a même été, les premiers numéros ont même été, je crois, réimprimés. Il y avait eu plus de 50 000 réassorts qui ont été faits parce que les lecteurs se l'étaient arrachés. C'est un personnage intéressant à plusieurs titres, parce qu'il est assez ancien, Miss Marvel. Et c'était déjà, à l'époque de sa création, un symbole du féminisme, parce qu'il faisait vraiment écho au mouvement de libération des femmes au MLF qui était assez fort aux États-Unis dans les années 70. D'ailleurs, pour la petite histoire, le personnage de Miss Marvel, donc dans la vraie vie, était éditrice d'un magazine qui s'appelle dans la série Women, et qui était en fait une référence à un autre magazine tout à fait réel, celui-là, qui s'appelait Miss Magazine, et qui était le magazine un peu iconique de la culture féministe américaine des années 70. Donc voilà, c'est un personnage qui est lié vraiment à l'histoire du combat des femmes aux États-Unis. Et là, récemment, dans sa dernière incarnation, c'est un personnage d'origine arabo-américaine qui reprend le costume de Miss Marvel. Donc c'est intéressant vraiment à deux titres. Vraiment, ça prouve que souvent les comics ont été, peut-être pas précurseurs, mais en tout cas sentent bien l'époque dans laquelle ils s'inscrivent.
Il n'empêche, Sylvain Rimbaud, si on s'intéresse à présent aux super pouvoirs qui sont attribués aux femmes dans ces comics, on a l'impression qu'ils se résument encore, comme ils se sont longtemps résumés, à une force psychique, à défaut d'être physique, et puis ça ne s'invente pas, un pouvoir d'invisibilité.
Exactement. Alors, les super-héroïnes dérivées des super-héros vont avoir peu ou prou les mêmes pouvoirs que les super-héros mâles. L'invisibilité, alors on va parler de Sue Storm, en fait, dans les 4 Fantastiques, qui est la seule femme à être dans le groupe des 4 Fantastiques, une des premières aussi héroïnes Marvel dans les années 60. Alors que les pouvoirs des coéquipiers mâles de Sue Storm, ces pouvoirs prennent effet sur le corps, Sue Storm, elle, peut se rendre invisible, tout simplement. Elle peut disparaître, notamment grâce ou à cause de ses émotions. Donc quelque chose quand même d'assez problématique pour la seule femme qui se trouve dans cette équipe masculine.
On est dans le cliché un peu, en effet, de la femme lymphatique, hystérique, sous l'emprise de ses émotions. Mais ça veut dire que pendant des planches entières, des pages entières, elle a disparu à cause de son pouvoir d'invisibilité, qu'on ne peut plus la voir.
Alors, ce pouvoir-là, il est assez... en même temps, ça marche comme quelque chose d'assez drôle. Si on regarde encore une fois dans les adaptations des films, ce pouvoir d'invisibilité, ça permet de la mettre toute nue.
C'est pratique, Thomas Rozek.
C'est assez vrai ce qui vient d'être dit, mais il y a une chose qui est intéressante à noter avec Sue Storm, c'est aussi l'évolution du personnage à travers les différentes incarnations qu'il y a pu y avoir dans les comics. Je parle en bande dessinée, hein, là, pour les films qui sont assez catastrophiques. En bande dessinée, elle est vraiment passée effectivement d'un personnage assez, pas mineur, mais très soumis à ses émotions, un peu faible comme ça, un personnage très fort dans les dernières incarnations comics où elle devient carrément la chef des Quatre Fantastiques. C'est aussi l'épouse d'un des membres des Quatre Fantastiques. Et ça devient vraiment un personnage central et pour le coup plus du tout soumis à ses émotions, plus du tout en retrait, plus du tout faible et au contraire très très forte. Une femme forte, vraiment une femme de caractère. Et je pense que ça dénote aussi d'une évolution de l'image de la femme dans les comics ces dernières années.
Audrey Alouette, Thomas Rozek le dit, on assiste dans les comics traditionnels à une prise de pouvoir des femmes, à une féminisation, mais il y a aussi parallèlement, pour vous qui êtes éditrice comme Miss Marvel, le développement de séries de bandes dessinées qui s'adressent en particulier aux filles, aux jeunes femmes. Quelle est votre expérience à ce sujet, vous qui, je le répète, avez fondé des collections de BD pour les éditions Soleil?
Alors bon, là, un tout petit peu d'historique quand même. Quand j'ai fondé ces collections, c'était maintenant il y a 6 ou 7 ans. Et à l'époque, en France, ça se faisait pas en fait. J'étais la première à le faire. Et je l'ai fait tout simplement un petit peu par opportuniste, hein, faut être honnête. Hein. Et aussi parce que moi, quand j'étais adolescente, s'il n'y avait pas eu l'Enfeust de Troyes, qui par certains côtés était assez féministe, même si c'était un héros masculin.
Série d'heroic fantasy.
Série d'heroic fantasy absolument fantastique. J'aurais tout simplement arrêté de lire de la BD parce qu'il n'y avait à peu près rien pour moi en tant que lectrice. Donc je me suis dit, voilà, maintenant que j'ai le pouvoir de faire quelque chose, je vais faire quelque chose pour un lectorat féminin. Et l'erreur que j'ai peut-être faite, c'est de mettre une étiquette très franche là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je lésais un peu le lectorat masculin parce que j'avais finalement un petit lectorat masculin qui n'osait pas trop aller vers ces BD-là parce que ça s'adressait soi-disant aux femmes. Donc bon, voilà, fallait pas lire ça quand même. Et c'est vrai que ces derniers temps, les libraires en particulier se sont rendus compte d'un vrai problème qui en fait est un problème pour le lectorat masculin. Qui est fait qu'il y a tellement les éditions, enfin il y a beaucoup d'éditions qui deviennent tellement genrées que en fait il y a un problème avec l'âge qui font que les hommes, le lectorat masculin, est incapable de s'identifier, est incapable d'avoir de l'empathie avec un personnage féminin. Donc on se rend compte que souvent en grandissant, le lectorat masculin ne lit que des séries où il y a un personnage masculin principal. Par exemple, Harry Potter n'aurait sans doute jamais pu devenir un succès planétaire si ça avait été Harriet Potter, par exemple. C'est vrai que donc il y a ce problème. Donc j'avoue que moi, maintenant mon objectif, maintenant que j'ai un petit peu évolué et compris tout ça, ça serait de faire des héroïnes, un peu comme Buffy contre les vampires de Joss Whedon, qui est aussi un comics hein, par ailleurs.
Et qui est un exemple.
Voilà, qui parle aussi à un lectorat masculin. Et là, ça va être mon objectif sans doute pour les 10 prochaines années, c'est de faire des héroïnes qui parlent aux hommes et pas seulement aux femmes.
Le morceau Decepticon, référence aux super-vilains, notamment des blockbusters Transformers, ces camions qui se transforment en robots. À propos de déception, parlons à présent de la vie sexuelle de nos super-héros et nos super-héroïnes, parce qu'ils sont beaux, ils sont forts, ils sont désirés, mais les super-héros masculins ont une vie sexuelle rabougrie. Le romancier italien Marco Mancasola, a décrit leur débandade dans un livre remarqué qui s'intitulait donc « La vie sexuelle des super-héros ». Mais Thomas Rozek, la vie sexuelle des super-héroïnes est-elle aussi compliquée, sinon désertique, que celle de leurs homologues masculins ?
Aussi compliquée sans doute, oui, je pense. Ouais. Disons que ça a beaucoup changé. Là encore, je vais dire la même chose, je pense à peu près tout le long de l'émission, ça a beaucoup changé ces dernières années.
On est là pour parler de ça, justement, du bel aujourd'hui,
justement.
Alors, des métamorphoses.
Pendant longtemps, il n'était pas question dans les comics d'une sexualité autre que l'hétérosexualité, et notamment pour les personnages féminins. C'était complètement exclu. Depuis quelques années, ça change, notamment grâce à un personnage qui s'appelle Batwoman, qui est un vieux, vieux personnage, qui date vraiment quasiment de... qui a été quasiment créé en même temps que Batman. Donc c'est vraiment les années 40. Et qui au début était un espèce d'attrait amoureux pour Batman, pareil, un personnage pas très passionnant dans les années 40, mais qui est devenu maintenant un personnage vraiment vraiment très chouette, et qui est un personnage homosexuel, et qui d'ailleurs a une romance au long cours avec un autre personnage de sa série qui sert d'intrigue notamment, et ça a été extrêmement bien accueilli par le public américain. Pas très bien par les médias conservateurs, on s'en doute, mais bon, ça c'est les États-Unis, c'est plutôt classique. Et ça dénote vraiment de la place que maintenant occupent les minorités, comme on dit, on les appelle encore les minorités malheureusement, dans les comics. Ça a vraiment toujours été, les éditeurs de comics ont vraiment toujours réussi à distiller l'idée que la société américaine n'était pas monobloc, n'était pas uniquement composée de WASP, et justement à réussir à donner, un bon aperçu du panel de différences qu'il y avait dans la société. Ça se joue notamment sur la sexualité, notamment sur les personnages homosexuels qui sont très très nombreux maintenant dans les comics.
Il y en aura de plus en plus d'ailleurs.
Et il y en aura de plus en plus certainement. Oui.
Sylvain Rimbaud, précisément, Thomas Rozek nous dit qu'il y a eu quelques coming out d'importance, en particulier pour les intrigues scénaristiques de ces séries de comics. Est-ce que ça veut dire que seuls les super-héros homo ont une vie sexuelle ?
Non, je pense pas, parce que cette vie sexuelle-là ne va pas être montrée comme la vie sexuelle hétérosexuelle ne va pas être montrée non plus. Il y a très très peu de scènes de sexe, finalement, que ce soit dans les comics ou dans les films. C'est quelque chose qui est finalement assez prohibé, où il n'y a qu'une grande image sur la page et c'est tout ce qu'on voit. En tout cas, je pense qu'il y a, pour revenir sur les femmes, une espèce de figure de la femme fatale, comme ça, qui est vachement prégnante, je pense forcément notamment à Catwoman, et qui se donne le droit qui prend le droit de pouvoir séduire, justement, de pouvoir même aller jusqu'au coït avec Batman pour arriver à ses fins, justement.
C'est-à-dire que vous voulez dire que s'il y a si peu de sexe dans les comics, c'est parce que les femmes sont très dangereuses? Ou alors d'effrayantes manipulatrices.
Je dirais pas ça.
C'est une tradition très ancienne, la femme fatale dans les comics. C'est même un des principes fondateurs de la bande dessinée américaine. Parce que faut savoir que à l'époque, dans les années 30-40, quand on commençait à apparaître les comics en parallèle au pulp, donc qui étaient ces romans pas chers qui se vendaient, des romans de guerre, voilà, il y avait parmi les passages obligatoires, il y avait des histoires de femmes fatales, de femmes détectives, de femmes d'action. C'était très très présent et ça faisait écho en particulier à la situation que traversaient les États-Unis à l'époque. C'est-à-dire que dans les années 40, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de femmes se sont retrouvées à occuper des postes dans la société auxquels elles n'avaient pas accès avant, parce qu'on était dans une société très patriarcale. Les hommes étant partis au combat, on a vu apparaître des femmes ingénieurs, des femmes journalistes, des femmes à des postes de pouvoir, des femmes dans la police aussi. Et du coup, ces comics reflétaient cette réalité-là. Et du coup, le personnage de la femme fatale, de la femme d'action, s'est imposé comme un espèce de canon du genre et qu'on retrouve encore aujourd'hui avec Catwoman, avec d'autres personnages de ce genre-là. Et d'ailleurs, même les petites amies de super-héros sont un peu des dérivés de ces femmes d'action-là. Lois Lane est journaliste. Vicki Vale, qui était aussi un des personnages clés de Batman, parce que c'est sa petite amie pendant très longtemps, on l'a retrouvée d'ailleurs au cinéma chez Tim Burton, est aussi journaliste. Enfin voilà, c'est un personnage comme ça récurrent depuis les années 40.
Merci à tous trois. Je profite du fait que nous soyons ensemble en direct, Audrey Alouette, et que vous êtes non seulement éditrice, on l'a dit et répété, mais aussi scénariste pour vous permettre de dire un mot de la situation des auteurs, qu'ils soient auteurs de comics, de bandes dessinées.
Ou même de romans.
Ou même de romans en, fait, voilà, en France aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je voulais dire un petit mot au sujet donc, de la situation des auteurs en France aujourd'hui qui sont face à un vrai problème. C'est que actuellement, notre caisse complémentaire santé a brutalement décidé de nous prélever 8% de nos revenus à partir de l'année prochaine. Alors, dit comme ça, ça peut sembler absolument bénin, mais en fait, c'est un mois de revenus qui disparaît pour à peu près tous les auteurs de France qui vivent donc de leur plume ou de leur crayon. Et le vrai problème que ça va poser à l'heure actuelle, c'est qu'on va assister dans les deux prochaines années, tout simplement, à une disparition d'à peu près, je dirais, 40% de la profession. Il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 80 à 90% des livres que vous pouvez trouver en librairie sont faits par des auteurs professionnels. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce n'est pas un travail d'amateur. Et à l'heure actuelle, on est dans une situation absolument dramatique. Donc les syndicats, en particulier le SNAC, Syndicat National des Auteurs Compositeurs, essaient de faire intervenir les ministères, mais pour l'instant, nos tentatives restent un petit peu lettre morte. Tous les ministères se renvoient la patate chaude, si j'ose dire, et nous sommes dans une situation absolument terrible. Voilà, je voulais sensibiliser un petit peu les auditeurs là-dessus.
Ils sont donc désormais un peu sensibilisés grâce à vous. Merci Audrey Alouette. Je rappelle qu'on peut lire vos scénarios dans les collections Princesse Sarah, Triskel ou encore Lord of Burger et puis lire les bandes dessinées de vos collections Strawberry et Blackberry aux éditions Soleil.
Lisez Alissa surtout, c'est très bien.
Alors il faut lire Alissa, c'est entendu. Et puis pour vous lire Sylvain Rimbaud, eh bien, il faut se reporter à la revue Signes, Discours et Société qui a récemment publié votre article Les identités costumées, politiques des représentations identitaires dans la culture populaire. Et à 13h passées de 21 minutes, eh bien c'est l'heure de retrouver la chronique d'Aude Lavigne à première vue. Elle s'entretient aujourd'hui avec la critique d'art et commissaire d'exposition Sandra Adam Couralet, que les auditeurs des regardeurs sur France Culture connaissent bien.
Sandra Adam Couralet fait partie de la nouvelle génération de critiques d'art et de commissaires d'exposition. Depuis 2008, elle collabore avec Jean de Loisy. Elle est par ailleurs productrice à France Culture pour l'émission Les Regardeurs. Elle participe en 2012 et 2013 au Collège critique du Salon de Montrouge. Enfin, elle a présenté le travail de Judith Scott au Collège des Bernardins. Au téléphone, elle répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain? Et à première vue, Sandra Adam Couralet, vous nous répondez.
Je crois que la première œuvre qui m'a vraiment marquée, c'est dans les années 90. Je me baladais avec mes parents au musée du CAPC à Bordeaux, célèbre musée d'art contemporain. Et sur le toit de cet entrepôt, il y avait une sculpture de Richard Long, cet artiste du Land Art. C'est une sculpture de pierre blanche alignée, parfaitement alignée, sur le toit du CAPC. Et ça s'appelle White Walk Line, je crois que ça date des années 90, justement. Ça a été fait exactement pour le CAPC. Et ce qui m'avait marqué, je crois, et ce qui m'avait beaucoup plu, c'était une sorte de poésie très simple de ces simples galets qu'il avait récoltés dans la nature, qu'il avait détournés, qu'il avait, comme cela, alignés sur le toit du CAPC. Et en fait, le Land Art, ça m'a beaucoup plu, et ça m'a vraiment amené à considérer l'art contemporain et les artistes. Parce que après, ensuite, j'étais tombée sur un livre chez mes parents également, sur le Land Art, où on voit vraiment que c'est une sorte de modification de la nature, mais qui ne viendrait pas la contraindre ou la contredire, mais qui viendrait justement révéler peut-être la beauté des formes présentes dans le réel. Et pour moi, l'artiste, voilà, c'est peut-être celui qui est niché comme ça au cœur de la vie et qui vient le révéler. Peut-être la capacité, vibratoire du monde. C'est cette relation de l'art et la vie qui me plaît. En fait, c'est un peu comme quand Proust y remarque dans le tableau de Vermeer le petit pan de mur jaune. Pour moi, c'est ça, c'est peut-être ce tout petit pan de mur jaune, c'est-à-dire ce petit bout de monochrome caché dans une représentation classique d'un réel qui fait que le tableau, tout d'un coup, il prend tout son sens. Et pour moi, l'artiste, c'est ça, c'est peut-être l'importance de ce presque rien, niche au cœur de la vie, qui va nous révéler ce que le réel a de poétique, en fait. Et peut-être c'est pour ça que par la suite, je me suis intéressée à des artistes comme Giuseppe Pennone ou comme Annette Messager quand elle parle de sa petite pratique magique quotidienne. Voilà, c'est vraiment l'artiste niché au cœur du réel qui m'intéresse.
C'était à première vue la chronique d'Eau de la Vigne. Et notez, chères auditrices et auditeurs, que les choix de Sandra Adam-Courallet sont à retrouver au Centre Pompidou-Metz dans l'exposition Forme simple dont elle est commissaire associée. Robin Williams, l'acteur américain, s'en est allé. Il a interprété Mrs. Doubtfire, dont nous entendons quelques notes de la partition. Il a incarné également un super-héros, puisque nous parlions de super-héroïne. Il était un super-vilain dans Batman 3, un rôle qu'on a un petit peu oublié. Il y a en revanche des rôles inoubliables dans la filmographie de Robin Williams. Et c'est l'occasion d'en parler à présent dans la grande table d'été, autour de cette grande table, en compagnie d'Emmanuel Etis, président de l'Université d'Avignon et spécialiste sociologue du cinéma, spécialiste des films de campus. Un ouvrage a même été publié sous votre plume avec Damien Malinas chez Armand Collin. Bonjour Emmanuel Etis.
Bonjour.
We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, O me, O life, of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O me, O life?
Alors à l'instant, c'était un extrait du Cercle des poètes disparus, l'un des grands rôles de Robin Williams, l'un des rôles clés pour vous, Emmanuel Etis, pour le cinéphile, le spécialiste que vous êtes, je le disais, des films de campus, ce genre majeur du cinéma anglo-saxon qui est pourtant méconnu ici.
C'est un rôle majeur, c'est celui qui va d'abord vraiment poser d'une manière internationale la carrière de Robin Williams. Et il a y incarné un professeur inouï, qui est le professeur Keating, dans le Cercle des poètes disparus, c'est-à-dire ce professeur qui arrive dans une école pour transformer la conscience même de ses apprenants. On est vraiment dans une logique qui est universitaire, où on ne s'échange plus, où on n'a pas un savoir qui vient du haut, mais on dit que le savoir est en vous, et il va incarner cette figure qui va être une figure durable dans le cinéma américain, qu'il va poser, mais avec toutes ses bases. Et d'ailleurs, quand on observe de près la cinématographie de Robin Williams, on va voir que cette figure du professeur, il va la garder, il va la conserver très longtemps. Il va incarner des rôles de professeur de nombreuses fois. Alors, le Cercle des poètes disparus, c'est celui qu'on a en tête parce que, vraiment, on a toutes ces images mythiques.
Vous êtes d'ailleurs, j'imagine, monté sur une table pour nous passer ce coup de téléphone, Emmanuel Etis.
Absolument, je suis en haut d'une table en Bretagne pour pouvoir vous en parler. Mais réellement, c'est ça, oui. À la fin, quand on remercie ce professeur que l'on salue, tous les professeurs rêveraient de terminer leur carrière ainsi, avec les élèves qui montent sur la table et qui lui font ce signe d'adieu, qui est un signe extrêmement émouvant. Hein. Ce Cercle des poètes disparus, c'est vraiment la révélation de la connaissance et le remerciement face à cette connaissance révélée. Mais ce n'est pas le seul film dans lequel il va jouer un rôle très très important de professeur. On pense notamment aussi au très beau film de Gus Van Sant, pour lequel il va avoir un prix d'ailleurs, qui est le Will Hunting, en anglais le Good Will Hunting, où il va incarner là un professeur de psychiatrie à qui un professeur de mathématiques va envoyer un étudiant un peu difficile pour, là encore, explorer ses profondeurs. Et puis ce ne sont pas encore une fois les seuls films où il incarne le professeur. On a le docteur Patch, on a évidemment le professeur Flubber. À chaque fois, il incarne cette figure à la fois intellectuelle, mais toujours, toujours en marge. Ça, c'est aussi une constante chez Robin Williams, où il y a une réinterrogation à la fois de l'individu, mais aussi des modes de savoir et des modes de connaissance.
Vous avez peint ça?
Oui. Tu peins? Tu sculptes?
Non.
Tu aimes l'art?
Non.
Tu aimes la musique?
C'est une merde, votre truc.
Ah, et si tu me disais vraiment ce que tu en penses?
Le cocktail du linéaire et de l'impressionniste, eh bien, ça fait une composition assez fouillie. C'est un plagiat de Winslow Homer, en plus, sauf que vous avez un blanc qui rame dans votre bateau.
Ah, tu sais, même Monet n'était pas toujours en forme.
Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse.
Qu'est-ce qui t'intéresse?
C'est les coloris.
Tu veux que je te fasse vraiment chier? C'est de la peinture au numéro.
C'est des couleurs au numéro, parce que c'est des couleurs fascinantes, justement.
Ah, tu trouves? Explique-moi ça. Sûr.
Je pense que vous allez pas tarder à vous couper votre putain d'oreille, vous.
C'est vrai?
Ah oui.
Bon, je vais peut-être aller vivre dans le sud de la France et me rebaptiser Vincent.
Vous connaissez le dicton « Nécessité n'a pas de loi » ?
Oui.
Ça s'applique peut-être à vous.
Comment ça ?
Eh bien, mettons que vous êtes surpris en pleine mer par une grosse tempête.
Oui.
Le ciel vous tombe sur la tête, les vagues s'écrasent sur votre petit bateau, les rames vont bientôt se rompre. Et vous pissez dans votre froc, vous chialez, vous avez peur et vous êtes prêt à tout pour vous en sortir. Peut-être devenir psy.
Bravo, c'est ça. À moi de faire mon boulot et arrête de m'en empêcher.
Alors vous aurez reconnu Robin Williams, mais dans sa version française, dans un extrait de Will Hunting dont vous nous parliez à l'instant. Emmanuel Etis, merci beaucoup. Je rappelle que non content d'être président de l'Université d'Avignon, vous êtes aussi le co-auteur avec Damien Malinas des films de campus chez Armand Collin. Mais trêve à présent de poésie, de pédagogie, d'onomatopée et de super coups de marteau, place à la session live de Mathieu Conquet, qui nous propose aujourd'hui d'écouter non pas du Boulez, mais Romain Leleu au bugle, accompagné de François Dumont au piano, dans une transcription de la mélodie d'Orphée et Eurydice de Gluck. C'était la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Romain Leleu qui sera en concert ce soir au Festival de Menton, vendredi au Festival de musique en Bourbonnais à Hérisson et dimanche au Festival Classique au Vert à Paris. Quant à ses disques, ils sont disponibles sous le label Aparté.
Jusqu'à 14h, la grande table
d'été,
Martin Kénéen.
cet aparté musical refermé, ouvrons à présent la deuxième partie de notre grande table d'été qui regarde désormais moins du côté du corps et du cœur des super-héros que de celui de leurs gadgets, high-tech ou low-tech, qui sont l'œuvre de designers. Après la remise des prix du 9e festival Design Parade à la Villa Noailles hier, la grande table se couvre en effet d'objets étranges et beaux pour vous parler de design en compagnie de la lauréate du Grand Prix du jury de ce festival, Laura Couto-Rosado, bonjour.
Bonjour.
Et puis en compagnie aussi de la jeune designer, puisque c'est ainsi qu'on dit, Alice, etc. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes formée à Londres au Ravensbourne College, puis vous avez collaboré avec deux grands noms du design français, Pascal Mourgue et André Poutman, avant d'assumer aujourd'hui votre propre signature. Alice, etc. Le design est affaire d'objets, d'objets souvent inanimés, mais cette discipline évolue sans cesse. Ses formes, ses matériaux, ses couleurs, mais aussi ses audaces reflètent notre temps. Alors y a-t-il à cet égard, dans votre collection personnelle, un objet qui pour vous incarne en particulier cette fonction de miroir de l'époque ? Commençons avec un objet.
Donc c'est l'objet d'un des maîtres que j'admire, qui s'appelle Isamu Noguchi, et qui, en 1950, a créé les fameuses lampes en papier qui sont aujourd'hui copiées et que tout le monde met chez soi quand il y a une ampoule nue, donc ces fameuses boules en papier. Et en fait, pour le remettre dans le contexte, c'est vraiment un reflet contemporain de son époque et de son métissage. Lui, c'est un designer américano-japonais. Et donc c'est un voyage au Japon qui lui a donné l'idée de créer des sculptures lumineuses en papier avec la technique des lanternes japonaises, la technique ancestrale en fait. Et on voit aussi dans cette série de luminaires qui sont pour moi intemporelles, son influence de Brancusi, parce qu'il avait été assistant du sculpteur roumain Brancusi pendant 6 mois. Et donc même dans les lampes de Noguchi, on voit bien des sortes d'hommages ou des traces de cette influence et de cette admiration pour ce sculpteur qui avait cette particularité de travailler la matière brute de ses propres mains aussi, qui avait un rapport à la matière très, très franc.
Donc nous avons accroché dans le studio numéro 1 de France Culture une de ces fameuses boules en papier de riz qui servent donc d'abat-jour pour cacher, couvrir et diffuser la lumière. Laura Couto-Rosado, quel objet alors mettriez-vous à votre tour sur la table ?
Alors moi, je pense qu'on est dans un autre registre là. L'objet vraiment que je mettrais aujourd'hui sur la table, ce serait un alambic. Voilà, ça peut paraître un peu étrange aujourd'hui, ça paraît vraiment un petit peu vieilli, sorti un peu d'un âge qui révolue. Et je trouve justement ça qui est intéressant dans l'alambic aujourd'hui, en 2014, de se retrouver devant un objet qui peut être assez significatif, en tout cas pour moi, parce qu'il ouvre la porte à, on va dire, des possibilités ou des transgressions qui, en fonction de règles que l'on connaît, qui ont été établies, par exemple, avoir la possibilité de produire son propre alcool, être dans des démarches qui sont de l'ordre de l'alchimie, de la transmutation, et puis qui sont des termes qui sont, on va dire, assez connotés, voire un petit peu pointés du doigt, parce qu'on est plus dans une société plutôt scientifique, où on aime, on va dire, avoir des vérités, comment expliquer, assez...
cartésienne.
Très cartésienne, absolument, oui, merci. Voilà, cartésienne. Et puis, on n'aime pas trop dialoguer avec ces antiques mages du passé. Et puis, je trouve ça intéressant d'avoir la possibilité de dialoguer entre les deux et puis de proposer des nouvelles choses en allant regarder un petit peu plus derrière soi.
Donc on entend dans ce témoignage de Laura Couto-Rosado une petite déception de ne se voir servir que de l'eau dans le studio de France Culture, quelque chose de plus profond également. En effet, Alice, etc., les objets designés nous parlent de leurs auteurs et pas seulement de leur époque. En quoi vos objets, vos projets sont-ils le reflet de votre singularité, peut-être de vos doutes ? Quelle création pourrait en témoigner ?
Alors, la création la plus personnelle et la plus intime, bon, finalement, c'est la dernière, ce qui semble assez logique, puisque c'est lié à un chemin, à une sorte de construction, de recherche constante Donc moi, j'ai cette recherche constante de la simplicité, du dessin intemporel, de valoriser la matière première et aussi, par ce biais-là, de valoriser les savoir-faire et donc le travail de l'homme, le travail de la main. Donc ça peut aller du travail artisanal au travail industriel et high-tech, très contemporain, et le mélange des deux. Et donc, l'une des créations les plus personnelles, c'est Page Blanche. C'est un livre-objet que j'ai imaginé et qui est composé d'une une quinzaine de papiers blancs. Donc, en fait, ça montre aussi une palette de diversité au niveau du blanc, des textures. Donc, c'est aussi quelque chose de très sensuel. Et c'est une démarche finalement, oui, très personnelle, vu que c'est une sorte de déclaration d'amour au blanc. C'est-à-dire que j'ai dû être japonaise dans une autre vie parce que j'ai cette obsession du minimalisme, du vide, du blanc. Et donc là, c'était de faire une sorte de manifeste pour me l'approprier. Et donc, et la suite de ce projet, c'est une invitation à l'autre, à l'expression libre. Donc je suis en train d'inviter différents artistes à s'approprier chaque livre pour que chaque livre devienne une œuvre. Donc c'est aussi, je pense, ma création la plus modeste ou la plus discrète.
Alors à propos de votre amour du blanc, Alice, etc., je vous propose d'écouter Pierre Paulin qui, lui, nous parle de couleurs.
Ah. Je suis moins avant-gardiste que Pantone en matière de couleurs, d'espace. Je n'aime pas trop faire des colorations violentes, j'aime les couleurs assourdies. Je suis obligé d'adapter des couleurs du moment. Il y a des orangés, comme ceux qui sont dans mon séjour actuellement, de l'époque, qui me gênaient un petit peu. Je préférais des couleurs gris-bleu ou un orangé, mais extrêmement passé. J'aimais des couleurs douces. J'aime toujours, c'est des couleurs assez douces, qui ne soient pas trop agressive, sauf dans des cas où c'est nécessaire. Par exemple, quand je fais ce siège collectif Osaka bleu-blanc-rouge, là, j'ai la ferme intention de montrer qu'il s'agit de l'aménagement du pavillon français à Osaka et que je dois donc marquer le coup très fort, puisque je suis le représentant de la nation française. Je suis payé pour être cela. Vous comprenez ?
Alors, grand représentant du design français, Pierre Paulin, on l'entendait à l'instant à la fin des années 60, puisque son divan Osaka date de 1967, dans une archive sélectionnée par le réalisateur de la grande table, Michel-Ange Vinti. Pierre Paulin qui nous parlait de son goût pour la couleur, les oranges passés qui étaient en vogue à l'époque, et puis le bleu-blanc-rouge de ce qu'il a réalisé pour le mobilier national. Dans votre œuvre, puisque c'est vous désormais, Laura Couteau-Rosado, qui représentez la France en matière de design, après ce prix, ce grand prix du jury du festival, du 9e festival Design Parade que vous avez reçu donc à la Villa Noailles hier. C'était votre chant du quartz qui vous a valu cette distinction. Alors oui. Le chant du quartz, il est de quelle couleur? Il est de toutes les couleurs à la fois?
Alors, on parlera plutôt de couleurs sonores dans ce cas-là. Le chant des quartz, du quartz, est un dispositif de design qui contient un dispositif électronique qui a été designé et conçu pour cette pièce et qui permet de faire réellement chanter littéralement 3 cristaux de quartz naturel en utilisant les propriétés physiques des cristaux de quartz. Dans ma démarche, ma recherche de designer, je m'intéresse beaucoup aux technologies actuellement et comment est-ce que les technologies peuvent devenir matière à design et pas seulement cachées dans des boîtes, dans nos appareils high-tech de nos jours. Et donc, je m'intéresse fortement à la physique appliquée, notamment en électronique. C'est ce que, on va dire, c'est mon domaine de prédilection de designer. Et puis, je me suis rendu compte qu'on était entouré de quartz, sans le savoir, dans nos ordinateurs et nos tablettes, iPhone et smartphones. Et puis, j'avais envie de montrer, en fait, un petit peu ces petits objets, en fait, qui sont cachés. Et puis, en grandissant l'échelle, j'ai réussi à faire ce dispositif. Et grâce à cela, on peut entendre réellement des cristaux de quartz dans une pièce, en fait.
Et que nous dit-il? Que nous chante-t-il de vous, cet objet, puisqu'on parle aussi de l'objet comme miroir de son créateur, de sa créatrice?
Peut-être, c'est très difficile effectivement de donner un regard sur soi. Peut-être qu'il montre quelqu'un qui, dans la discipline de design, est plutôt protéiforme, qui, on va dire, va aller chercher, on va dire, dans des disciplines que designer a moins l'habitude de farfouiller. Donc c'est peut-être parle de moi en tant que designer, comment dire, multidisciplinaire. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir s'approprier ces techniques, ces technologies, que ce soit en physique appliquée, en programmation informatique, d'arriver à pouvoir designer des nouveaux dispositifs et des nouveaux objets qui n'existaient pas jusqu'alors.
Alice, etc., le designer doit être aujourd'hui pluridisciplinaire, indiscipliné pour faire des découvertes, comme c'est le cas de Laura Couto-Rosado. Vous, où allez-vous chercher, dans quelle marge allez-vous frayer, vers quelle frontière vous dirigez-vous pour renouveler votre création, pour trouver de l'étonnement?
Oui, donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et le designer est une sorte d'éponge de son époque. Et c'est un esprit libre. C'est un esprit libre qui doit faire une analyse et une synthèse de manière autant instinctive qu'inconsciente. Et c'est vrai que, par exemple, ma manière de me renouveler, c'est de constamment être face à une première fois. Ma première chaise en bois, la première fois que je collabore avec un nez sur l'élaboration d'un parfum, la première fois que je dessine un motif textile pour un tapis. Et donc, c'est de nourrir cet éclectisme et d'avoir un œil neuf constamment. Et c'est ça qui permet de se régénérer et de se renouveler.
Vous voulez dire que vous ne faites les objets qu'une fois ?
Pour l'instant, oui. C'est
Il
un
ne
peu...
reste pas à l'état de prototype, mais pour vous, c'est une démarche de ce genre-là. C'est une expérience à la fois.
Mais c'est vraiment la rencontre et le dialogue. Enfin, c'est l'effet de surprise et la rencontre qui fait que ça stimule, je pense, une hyper-créativité face à un sujet inconnu. C'est cette donne-là qui est pour moi moteur dans mon travail.
Laura Couto-Rosado,
oui.
Il y a les frontières des disciplines et puis il y a la frontière peut-être essentielle entre le beau et le laid. Le design cultive le beau. Mais quid alors du lait ? En quoi est-ce que ça peut être fécond pour un designer d'aller creuser dans cette direction-là ?
Écoutez, la notion vraiment du beau et du lait, c'est, pour moi, ça... comment vous dire ? J'ai absolument pas d'avis là-dessus. Ça m'intéresse pas vraiment, en fait.
Mais qu'est-ce qui vous guide, alors ?
Ce qui me guide, c'est... bonne question. C'est pas, en tout cas, la volonté de créer du beau ou d'imposer ce que c'est que le beau ou le laid, ça c'est sûr. Parce que vraiment, dans le plus immonde, vous pouvez trouver une pépite d'or incroyable et puis l'exploiter et en faire quelque chose de magnifique. Donc, on ne peut pas vraiment dire là, on peut s'inspirer, là, c'est là qu'il faut aller, là, il ne faut pas aller. Au contraire, il faut aller partout et puis voir vraiment ce qu'il y a de meilleur dans chaque objet, dans chaque situation, etc., etc. Donc, en tout cas, ce n'est pas là-dedans en tout cas, que je me situe. Je me situe dans j'aime pas dire ce mot, mais dans la recherche de l'innovation, en fait. C'est-à-dire d'arriver à travers un objet, de porter un regard différent. Et de déstabiliser, j'aime bien plutôt déstabiliser les gens à travers mes objets et d'en faire plutôt des matières à penser, à réflexion. Par exemple, j'avais conçu des prothèses oculaires il y a quelques années. Et donc, c'est vraiment, ça peut vraiment déstabiliser justement les gens a priori comme objet. Et j'avais designé ces objets comme étant des accessoires de bijoux. C'est-à-dire que j'avais... travaillé avec une oculariste qui était à Toulouse et on avait fait un prototype qui était portable, biocompatible et qu'on avait fait porter avec des inclusions de cristal également et puis qui reflétait la lumière du soleil. Et donc du coup, la personne portait cette prothèse comme un bijou et l'enlevait, la remettait. Et puis du coup, c'était... Il y a des gens qui étaient assez choqués, avaient peur. Puis du coup, je trouvais ça intéressant justement à partir de cette réaction, de pousser les gens à réfléchir à ce que c'est que le handicap et ce que c'est aussi que le design et comment est-ce qu'un objet, un designer peut aussi aborder ces questions et créer des objets qui peut transcender justement le handicap et pousser des personnes à le revendiquer et en faire peut-être un plus.
Alors il y a cette relation importante du designer quand il a produit son objet et du public, du grand public, et de l'effroi qu'il peut ressentir à la découverte des premiers objets. Mais il y a aussi, Alice, etc., la relation en amont entre le designer son client et les ateliers, les unités de production où on fabrique les objets. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu comment travaille justement le designer que vous êtes, la designer que vous êtes aujourd'hui?
Oui, alors une des choses les plus importantes pour le début de chaque projet et de chaque création, c'est que tout se passe justement avec le client. Donc cette rencontre, ce dialogue, cette découverte, où effectivement en tant que designer, c'est le moment d'écouter, de poser des questions, d'observer.
C'est pas le moment d'effrayer encore le client?
Non. C'est même pas non plus de séduire, c'est-à-dire qu'on a été choisi parce que la personne aime votre travail à la base, donc la partie entre guillemets séduction ou sélection, elle s'est déjà faite. Et par contre, là, le rôle du designer, c'est vraiment de s'imprégner de l'univers de la marque, du client, de l'éditeur. Moi, je trouve énormément d'inspiration dans les ateliers de fabrication en voyant que ce soit des chutes de matériaux, en discutant avec la personne qui fabrique, que ce soit un ébéniste, un luthier ou bien quelqu'un qui est sur la chaîne de fabrication, puisqu'il y a des entreprises qui ont des usines finalement et où des fois c'est un robot qui fait la plus grande partie du travail, mais c'est très important aussi d'observer et de parler avec chaque personne qui constitue cette chaîne. Et après, il y a un temps. Donc un temps solitaire, un temps de maturation. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps, c'est un vrai luxe. Donc en général, par exemple, moi, je me retire pendant un mois où je ne donne plus aucune nouvelle et je travaille à ma manière sur le sujet. Je digère le sujet, je fais des esquisses, je teste mes propres dessins face au temps. C'est le temps qui décide si une idée a le droit d'être montrée ou pas, si elle est pertinente ou pas. Et ensuite, effectivement, ça rejoint un peu ce que disait Laura, il y a un effet de surprise. Le moment de présenter au client, le client, lui, il va avoir un choc, le choc de la nouveauté, le choc de la surprise. Et après, il lui faudra à lui le temps de digérer ce choc des différentes idées, des différentes esquisses et de s'en approprier une. Et ensuite, c'est le moment du dialogue et de l'hyper-communication entre le designer et le client pour arriver à cette finalité commune qui est la mise au point du prototype zéro, qui est la référence pour une grande série.
Laura Couture-Rosado, vous concernant, il va falloir maintenant digérer ce prix prestigieux de la Villa Noailles, du festival Design Parade. Il y a eu un article paru dans Libération qui était assez peu tendre avec les lauréats de l'an dernier, s'inquiétant de leur capacité à rebondir. Comment vous envisagez de rebondir et de vous tourner après les études, après la réflexion, après des objets qui étaient le témoin d'une grande liberté de création de votre part, vers la question de la demande et de l'économie du design?
Très bonne question. Alors, pour vous répondre, je compte bien conserver ma liberté. Donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'on m'a donné le prix parce que.
Vous ne transigez pas avec cela ?
Non, je pense que c'est important. C'est aussi pour ça que je pense qu'on m'a donné le prix. C'est que la proposition du Champ des Quartz était singulière par rapport à la sélection, que le choix, s'est tourné sur ce dispositif. Je pense que c'est à cause également de cela. Donc ça, je dois le conserver. Donc il y a tout un travail justement d'apprendre à conserver sa liberté et puis de savoir aussi s'imposer sans pour autant froisser les gens, mais en leur expliquant que c'est pour un meilleur. Après, pour l'année prochaine, grâce au prix, je vais entamer une résidence simultanée à la manufacture de Sèvres à Paris et aussi on va à Marseille. On va travailler sur des prototypes d'objets qui, je l'espère, seront dans l'évolution de mes recherches en design sur les céramiques et la piézoélectricité. Donc, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais j'ai espoir et... Je pense que ça va être très 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 intéressant comme année pour moi.
Merci beaucoup à toutes deux, Laura Couture-Rosado. Si on peut quand même se faire une idée de votre travail, de votre fameux Champ des Quartz qui est exposé parmi d'autres œuvres dans le cadre de toutes les propositions qui sont exposées à la Villa Noailles hier, c'est jusqu'au 28 septembre. Et puis pour découvrir votre travail, celui dont vous nous avez parlé, celui que vous avez laissé de côté, que vous avez laissé dans l'ombre, que vous avez caché, Alice, etc., bien, il suffit de se rendre sur votre site internet, Alice, etc., en toutes lettres.com. Mais à présent, eh bien, autour de la grande table d'été, il est l'heure d'une chronique, encore une fois, menteuse de la part de Marine Noyen. Bonjour Marine.
Bonjour Martin.
Alors Marine, aujourd'hui, vous nous entraînez du côté de la Bretagne ?
du côté des Deux-Sèvres, nous allons à
Va fâcher les Bretons.
Oui. Aujourd'hui, nous allons à Pougnérisson. Donc, c'est un village des Deux-Sèvres qui se vante une fois par an d'être le nombril du monde. Parce qu'en son sein, le village recèle la mine des contes où la parole s'est cristallisée il y a des milliers d'années. C'est un parachutiste américain qui aurait découvert la mine en 1944. Mais il a fallu attendre 1992 et le conteur Yannick Jolin pour que les histoires et cette mythologie soient de nouveau partagées tous les étés au moment du festival du Nombril du Monde. Bonjour Yannick Jolin.
Bonjour.
Alors le Nombril du Monde cette année s'appelle « On a retrouvé le Nord ». Mais pourquoi vous vous étiez perdu ?
Oui, ouais, le festival, le projet, Pougnérisson, le Nombril du Monde, tout ça, on s'était un peu perdu, comme peuvent se perdre un peu des projets comme ça, qui avaient oublié de se remettre en cause régulièrement.
Et les contes, les histoires, ce sont des pratiques vieilles comme le monde, hein. Vous inspirez de quelles pratiques ?
Écoutez-moi, au début, j'étais extrêmement ancré. Moi, je suis un terrien. Moi, je suis un pauvre gars du Poitou-Charentes. J'ai collecté mes histoires ici, persuadé qu'il y avait une singularité qui était vendéenne, qui était vraiment, qu'il y avait quelque chose là qui était formidablement à nous. Et finalement, plus je creusais dans ce terroir, et plus je me suis aperçu que les contes étaient totalement universels. Et ça a été une rencontre assez explosive. On prend le conte de Perciette, appelé Réponse dans les contes de Grimm. C'est un conte qui va être dans toute l'Europe, dans toute une partie des Balkans. Le conte de Cendrillon qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve un peu partout. Le conte des deux petits bossus qu'on a lu dans des hiéroglyphes d'Égypte et qui se retrouvent dans les mondes d'arrêt aujourd'hui. C'est-à-dire que les contes, les motifs d'histoire sont dans nos entrailles, sont une réponse aux angoisses premières de l'humanité et qu'après, elles ont pris une expression particulière sur un terroir.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans l'un des titres de vos spectacles qui s'appelle « Nous sommes tous nés d'une histoire ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Nous sommes nés d'un récit qui est celui d'abord familial, puisque vous savez bien qu'on ne raconte pas l'histoire familiale de la même manière dans une famille, par exemple, bourgeoise, qui a le sens de la reproduction, qui a le sens de la transmission. Et puis dans les familles prolo, où on va avoir une mémoire assez intermittente. Puis après, il y a toute l'histoire aussi de la France. On véhicule un récit. Alors, pour mieux le comprendre, c'est mieux de se plonger, par exemple, dans le 19e, dans le roman national, dans la Troisième République, qui fabrique les mythologies historiques. Puis après, on remonte sur l'identité religieuse. Et là, moi, je suis assez passionné par ça aussi. Donc, que faire de cet héritage ?
Ben voilà, justement, que faire de cet héritage ? Qu'est-ce que vous faites de cet héritage, justement ?
J'essaie au moins de donner la curiosité, j'essaie de donner l'envie aux gens de se poser les questions de ces récits-là. Parce que je crois que déjà, quand on a conscience d'être bâti sur cette somme de récits-là, quelque chose en nous se passe, parce qu'on est peut-être moins arrogant dans notre identité en se disant « ouais, c'est moi, moi je suis fait juste de toutes ces choses-là ».
Et vous êtes par ailleurs un grand adepte de la pataphysique. Comment est-ce que ça influe sur votre travail de conteur ?
Ça m'évite régulièrement de me prendre trop au sérieux justement là-dedans, dans ce que j'étais en train de vous parler. Je vous parlais de l'utilité du conteur qui veut changer le monde. Bon, vous savez que la pataphysique, c'est quand même c'est la science des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Régulièrement ici à Pougne, on a proposé des choses qui ne se font pas totalement ailleurs, des choses un peu dans un burlesque qui... notre jumelage avec l'étoile polaire qu'on va raviver cette année, par exemple, fait partie de ces choses qui nous paraissent très très importantes et en fait totalement dérisoires. Et on est ici beaucoup dans ce qu'on appelle la mégalomanie dérisoire à Pougnérisson. Donc on est mégalo mais avec nos moyens. Donc quand on fait un feu d'artifice géant, c'est avec une fusée. Et quand on jumelle avec l'étoile polaire, ça prend guère que deux tracteurs et un vieux pneu usé et une branche de frêne.
Merci Yannick Jolin et le Nombril du Monde, c'est jusqu'au 15 août à Pougnérisson dans les Deux-Sèvres.
Merci Marine, rendez-vous demain pour une nouvelle chronique, un brin mégalo, toujours politique et pataphysique, et pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était façonnée par une clique de super-héroïnes et de super-héros, à moins qu'il ne s'agisse que d'une clique de super-vilains, rassemblant Corinne Amard, Catherine Donnet, Lola Kahn, Marine Loyen, Claudia Prolongeau et Martin Kénéen. À la réalisation toujours, là c'est sûr que c'est un super-vilain, Michel-Ange Vinti, et à la prise de son, aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Demain, la Grande Table d'été rendra hommage à Simon Leys, sinologue et romancier qui vient de nous quitter, et vous parlera aussi de feux d'artifice en amont des fêtes du 15 août et du Festival du feu d'artifice de Cannes. Il y aura peut-être un peu plus d'une fusée, comme chez Yannick Jolin.